donc après avoir entendu comment Ferenc ou François Feiteu avait réussi à intégrer le monde intellectuel français, j'aimerais vous présenter une sorte de théorie littéraire qu'il a développée déjà vivant à Paris. Donc, dans la présente communication, j'aimerais explorer comment le mythe de Paris a-t-il été créé dans la littérature hongroise. Le premier à employer l'expression dans un contexte littéraire était notamment François ou Ferenc Feiteu, qui en a fait un état des lieux à l'égard de deux générations d'écrivains dans un article de Népszava en juin 1937. En se référant à l'étude de Roger Caillois publiée dans la nouvelle revue française intitulée « Paris mythe moderne », il a attiré l'attention à la légitimité d'un tel concept. Ce qui, d'un côté, me permet d'adopter la conception de Paris mythique comme l'angle principal de l'analyse, de l'autre, me désigne une période littéraire à traiter, notamment l'entre-deux-guerres. À ceci, j'ajouterai une esquisse critique des théories contemporaines de la mythocritique pour établir une définition adéquate du mythe littéraire. Subséquemment, je vais vous présenter les changements de l'image parisienne après l'établissement du cadre théorique. J'analyserai quelques extraits du roman de Sándor Márai, Les étrangers, Idegen emberek, 1930, traduit du hongrois par Catherine Fille en 2012. En contrepoint, j'examinerai également comment la capitale française a-t-elle été décrite par une autre communauté d'expatriés de l'époque, c'est-à-dire par la génération perdue. Cette dénomination, formulée pour la première fois par l'américain Gertrude Stein, femme médecin et écrivain, désignait tous ces, et je cite, « jeunes gens qui avaient fait la guerre », fin de citation, et qui ne trouvaient plus leur place au pays natal en se sentant pris au piège par une société artificielle, par une crise morale, existentielle, financière. La génération était perdue en ce sens qu'elle avait hérité des valeurs n'ayant plus d'usage dans le monde contemporain. Les artistes, surtout les auteurs, se réfugiaient donc au vieux continent pour rebâtir leur vie, pour retrouver leur voix ou vocation perdue. Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Ezra Pound, T.S. Eliot et les écrivains anglais comme Ford Madox Ford ou l'Irlandais James Joyce étaient les figures éminentes de ce mouvement. Ils ont tous contribué à la création d'un mythe littéraire de Paris transmis à la scène internationale. Mais alors, dans quel sens par le jeu de mythes? Selon mon hypothèse, chacun d'entre nous possède en effet des conceptions différentes des espaces formés par nos propres souvenirs, expériences et lectures. Réfléchissez un peu. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Paris? Est-ce un mot ou une image, celle de la Tour Eiffel ou bien de la cathédrale Notre-Dame, le bruit des cafés parisiens, l'odeur de la pluie dans les rues? Même si nos perceptions de Paris se diffèrent, ces quelques exemples illustrent à merveille à quel point la ville de Paris s'est implantée dans notre conscience collective, surtout lorsqu'il s'agit des chercheurs francophones, des littéraires francophones. Dans la préface du Dictionnaire des mythes littéraires, Pierre Brunel précise que, et je cite, « c'est parfois dans la conscience commune que se produit la mythisation et qui sera enregistrée par la littérature. » Mais c'est parfois aussi la littérature qui en a l'initiative. D'où cette nouvelle catégorie des mythes littéraires, tout ce que la littérature a transformé en mythe. Fin de citation. L'état actuel des recherches comparatistes et de nombreuses publications corroborent l'hypothèse suivante, que la définition de Brunel peut notamment être appliquée à la notion d'espace. Quant à l'espace tangible, le courant géocritique établi par Bertrand Westphal explique comment l'écrivain le transforme en texte, créant ainsi un territoire mi-réel, mi-imaginaire, qui prendra essor dans la littérature. Toutes les couches d'interprétation de cette transformation, soit personnelle, soit littéraire, historique ou géographique, en bref, tous les déplacements constants entre l'univers de la fiction et le monde réel, font de Paris une ville palimpseste, observe Véronique Gély, directrice du Centre de recherche en littérature comparée à la Sorbonne. En reformulant les pensées de Gérard Genette sur le palimpseste, nous pouvons affirmer que les conséquences de ce va-et-vient éternel entre le référent et sa représentation littéraire forme des métamorphoses quasi permanentes de cette ville qui laisse des traces transparentes. Et je cite, « Si une ville offre un cadre spatial commun aux plusieurs récits, écrit Vincent Ferré, comparatiste et médiéviste dans son étude de Vienne à Berlin, cette ville apparaît d'une façon fragmentaire par les aperçus qu'en ont les personnes qui y déambulent ou la contemplent. Paris a bien le cœur du monde et le cœur du récit chez Proust et Dos Passos, mais ne sont gardés d'elle que quelques traits souvent altérés. » Ces traits que Ferré mentionne ici constituent par la suite les composants, les caractéristiques de mythes parisiens que je vous présenterai plus tard. Motif récurrent de la littérature depuis longtemps, Paris en tant que paradis des artistes se révèle également matière de création et de transformation littéraire. Or, ce n'est pas par hasard que Ernest Hemingway avait formulé la pensée suivante dans une lettre en 1950. Je cite, « Si vous avez eu la chance de vivre à Paris quand vous étiez jeune, quels que soient les lieux visités par la suite, Paris ne vous quitte plus, car Paris est une fête mobile. » Fin de citation. L'expression « fête mobile » ici renvoie à des journées fériées dont les dates changent d'une année à l'autre, comme celle de Pâques ou de la Pentecôte. Ainsi, Hemingway attribue le sort de l'éternel retour à Paris. Par ailleurs, cette phrase figure au début de son œuvre posthume « Paris est une fête, un movable feast » 1964, dans laquelle sont recueillis ses souvenirs parisiens. Les différentes couches d'interprétation et de description que les auteurs de la génération perdue donne de Paris nous montrent que la ville représente plus qu'un élément de décor dans leur récit. Ils envisagent Paris comme un personnage, comme protagoniste de leurs œuvres. Les auteurs énumérés précédemment évoquent Paris soit avec amour, soit avec dégoût, soit avec nostalgie, mais ils éprouvent toujours des sentiments très forts à l'égard de la capitale française. On appelle cette transformation des représentations de Paris d'un auteur à l'autre ou d'une époque à la suivante, réactualisation récurrente. Ce sont des réécritures, car lorsqu'il s'agit d'un mythe littéraire, je cite, « Une fiction devient mythe quand elle est répétée, mémorisée, quand elle s'intègre au patrimoine culturel d'un groupe donné, c'est-à-dire d'une société ou au sein d'une société, quand elle entre dans la mémoire commune, comme l'explique Véronique Gély. » Nous pouvons donc retracer les origines de cette mythification jusqu'au XIXe siècle, c'est la période littéraire où Paris devient presque le protagoniste des romans français, pensons à Victor Hugo par exemple. Cependant, la première reformulation dite scientifique du phénomène date de 1937. Dans son étude, écrite pour la NRF, Roger Caillois, le sociologue, a relié Paris et mythe, nommant Paris un mythe moderne. Il reconnaît déjà le rôle de la littérature dans la création des mythes et introduit parmi d'autres la notion de collectivité, ainsi précédant la théorie développée par l'école brunellienne. Et je cite, « Il paraîtrait sans doute acceptable d'affirmer qu'il existe dans cette perspective une représentation de la grande ville assez puissante sur les imaginations pour que jamais en pratique ne soit posée la question de son exactitude, assez répandue néanmoins pour faire maintenant partie de l'atmosphère mentale collective et posséder par la suite une certaine force de contrainte. On reconnaît là déjà les caractères de la représentation mythique. » Fin de citation. En s'appuyant sur cet essai de la Nouvelle Revue française, le journaliste historien hongrois, Ferenc Feitő avait employé la conception du mythe de Paris à l'égard de l'histoire de la littérature hongroise. Dans son article publié dans Népszava en juin 1937, il constate que les Hongrois adorent Paris d'une manière étrange, que simplement le nom de Paris les enchante, ce qui est l'héritage spirituel ou intellectuel de la génération d'Adi. Donc, tout cela fait partie de notre patrimoine culturel ici en Hongrie. L'essentiel de ce mythe, représenté par Mihály Babits également, est le désir d'avoir plus de possibilités, de mener une vie plus turbulente, d'être plus libre. Et je cite, « Nous sommes venus de l'Orient, mais notre amour, notre sauveur, notre fin et notre vie, la source de notre conscience et de notre nouvelle vie, fut toujours l'Occident. Fin de citation. Explique Bobbitt dans la Nouvelle Revue de Hongrie en 1932. Paris est planté dans mon cœur, avait écrit Oddy en janvier 1905 dans son poème à la gare de l'Est. Il est tombé amoureux de Paris, qu'il appelle la Sainte Ville des Admirations, et son maquis qui le protège. Oddy considère Paris comme un asile où il peut retrouver l'encouragement et l'inspiration pour recommencer sa bataille contre une société et une littérature hongroise conformiste, hypocrite et réactionnaire. Il était le poète prophète de sa génération. Il a exercé une influence exceptionnelle sur la littérature moderne. En conséquence, sa dévotion, cette admiration que Feito dénomme une religion, a imprégné d'abord les cercles intellectuels, ensuite l'inconscient collectif hongrois par la publication de plus en plus de poèmes, de romans, de lettres. Cependant, la Grande Guerre a bouleversé tout. Dans Mythe de Paris, Feito fait la différenciation entre l'image parisienne de la première génération de la revue New Goth et celle de l'après-guerre. Pour les jeunes auteurs des années 20 et 30, comme Sándor Márai, Gyula Illyés, Attila József, Miklós Radnóti, Paris n'était plus une ville sainte. Naturellement, les composants du mythe ont changé. Le sentiment qui définit leur expérience parisienne est celui de l'étrangeté et de la solitude. Nous supposons que c'est pourquoi Sándor Márai a intitulé le livre autobiographique de ses aventures parisiennes « Les étrangers », d'où nous citons les pensées du protagoniste de sa première journée passée à Paris. C'était ses premiers pas à Paris. À présent, il était seul. Il lui fallait se débrouiller. Ici, c'était le chaos. Chacun suivait son propre chemin, indépendamment des autres. Il fallait être sur la brèche. Fin de citation. Cette solitude revient de temps en temps dans le roman comme un leitmotiv, renforcé par une sorte de déception, et je cite, « Paris, c'était le chaos et la simplicité, et en tout cas entièrement différent de ce qu'il en savait. Paris, c'était autre chose que ce que promettaient les livres, peut-être pire, peut-être seulement différent. » Fin de citation. Ce qui m'a frappé en lisant ce dernier extrait, c'était la ressemblance dans le concept de changement entre Márai et Hemingway. L'Américain le formule ainsi, et je cite, « Il n'y a jamais de fin à Paris et le souvenir qu'en garde tous ceux qui y ont vécu diffère d'une personne à l'autre. Nous y sommes toujours revenus et peu importe qui nous étions, ni comment il avait changé, ni avec quelle difficulté ou quelle facilité nous pouvions nous y rendre. Paris valait toujours le déplacement et on recevait toujours quelque chose en retour de ce qu'on lui donnait. » Fin de citation. Comme je viens d'expliquer, selon l'hypothèse, ces transformations ou changements sont des parties indispensables du mythe. Ce qui est très intéressant quand même est de regarder comment cette atmosphère exceptionnelle des rues de Paris est décrite, parce que c'est peut-être l'élément le plus lisible et visible de notre mythe parisien. Les deux écrivains ont vécu à Paris à peu près à la même époque, Márai entre 1923 et 28 et Hemingway entre 1921 et 26. Ce que Hemingway a appelé une fête mobile, Márai l'a peint comme un chaos. Observons par exemple le premier roman de Hemingway, Le soleil se lève aussi, The Sun Also Rises, 1926. Au début de l'œuvre, Jake, le protagoniste, et Robert Cohn se retrouve à Paris et le soir, il se précipite vers un bar. Et je cite, « Nous allâmes prendre l'apéritif au café napolitain tout en regardant la foule de chaque soir sur le boulevard. La soirée de printemps était chaude. Je regardais la nuit tomber, les annonces lumineuses s'allumer, les signaux de circulation rouge et vert, la foule des passants, les chevaux de fiac trottant le long de la file servie des taxis. » Raconte Jake en introduisant l'image d'une vie fourmillante. Prenons un autre exemple publié à peu près 10 ans plus tard, dans Tendre est la nuit, Tender is the Night, 1934, Francis Scott Fitzgerald, l'ami de Hemingway, décrit ainsi l'une des soirées du couple protagoniste Diver, Dick et Nicole, et je cite, Il sortirait dans la nuit chaude et turbulente de Paris, ne s'arrêtant qu'un instant pour avaler un vermouth dans la plénombre du bar de Fouquet's. Fin de citation. La similarité des deux descriptions est frappante. Il suffit de regarder des adjectifs. Tous les deux parlent d'une nuit chaude, tous les deux mentionnent la foule dans la rue. Il dessine l'image d'un Paris joyeux qui reflète un bonheur insouciant, l'innocence de la jeunesse, la joie éternelle d'une fête mobile. En revanche, chez Marie, il règne un mécontentement bien formulé par des adjectifs, et je cite, « Les voitures s'arrêtèrent, la circulation impatiente et frémissante se calma un instant, puis, dans une bousculade coléreuse, comme s'il leur fallait rattraper un temps irrémédiablement perdu, ou se ruer à l'assaut, les voitures s'élancèrent à nouveau sur la chaussée. Il y a vraiment beaucoup de bruit, explique le narrateur. Néanmoins, si nous examinons de plus près le roman de Marie, nous pouvons y observer les traces de la première phase du mythe hongrois, les traits qui ont resté les mêmes depuis l'ère d'Odie. Il y a d'abord la paix d'un maquis, la nostalgie d'un bonheur perdu qu'on attribue à Paris. Et je cite, il était assis son chapeau à la main. Partout, on voyait que c'était un début d'automne calme et beau. Les arbres étiolés sur le trottoir dispensaient une ombre restreinte. Le silence et la paix régnaient. Montparnasse avait l'air d'une petite ville. Il se sentit convalescent et une sensation de bonheur à la fois triste et plaisante s'empara de lui. Il lui était impossible en cet instant d'avoir peur, de s'inquiéter et de désespérer. Fin de citation. Ensuite, Marie explique cette ambiance exceptionnelle de la ville qui est un élément de base du mythe retournant tout le temps. Il errait, flânait et observait, il commençait à deviner quelque chose, que le terme « charme de Paris » que les agents littéraires et artistiques avaient mis en circulation comme une sorte d'attraction pour les étrangers, n'était ni Mistinguette, ni les parfums et les restaurants, ni les mirages de la nuit, mais quelque chose d'entièrement différent, très difficile à définir et encore plus difficile à trouver. Le charme de Paris, c'était l'atmosphère. On vivait plus près de soi et de la vie. Tout était plus proche, la tristesse, la joie et l'ennui, plus sincère, plus naturel. Fin de citation. Il n'est pas difficile d'y dégager ces fragments et les composants que j'avais mentionnés d'après Vincent Ferré et qui vont rester les mêmes d'une époque à l'autre. Marie cite également des petites choses de la vie quotidienne parisienne qui contribuent à la création de ce charme. Et je cite, « On n'arrive pas à Paris quand on descend du train à la gare, ni quand on se tord le cou au Louvre et que s'installe cette nausée mortifiante causée par un trou plein de musées. On arrive quand on allume sa première cigarette, quand on fait quelques pas derrière une femme, quand le garçon nous tend le menu pour la première fois dans un restaurant. » Fin de citation. En guise de conclusion, nous pouvons constater que de toutes ces transformations, il nous reste donc le mythe littéraire d'un Paris européen, artistique et cosmopolite, qui est d'une part capable de redonner la liberté de la voix et de la pensée, le goût de la culture occidentale et le bonheur de vivre, mais qui de l'autre peut nous rendre déçus. Une ville mythique dont l'ambiance unique et incomparable a permis aux auteurs mentionnés de retrouver l'identité et la vocation perdues. Leur génération était la première à considérer Paris un asile, à l'interpréter comme la ville des arts et de la lumière. Mais ils ne font pas que décrire Paris ou rendre compte de son atmosphère. Leurs perceptions ont conservé une certaine image de Paris où l'esprit du vieux continent règne toujours, ce qui se trouve reformulé, redit, recréé sans cesse d'une époque à l'autre, dans la littérature mondiale et hongroise également. Et merci de votre attention.